Vous connaissez cette expression par un heureux hasard, qui est souvent un peu malhonnête. Hein. On se doute bien que ce qui s'est produit n'est pas vraiment dû au hasard. On aurait parfois même pu le prévoir, mais on choisit de s'en étonner, voire de s'en émerveiller. Qui croit encore au hasard aujourd'hui, dans cette époque où l'on doute de tout, où le mal et la conspiration sont jamais bien loin? L'expression par un heureux hasard s'entend presque toujours ironiquement. Un exemple au hasard: par un heureux hasard, la reine d'Angleterre avait, en plein Brexit, un costume aux couleurs de l'Europe. En réalité, son chapeau bleu étoilé n'avait sans doute rien d'une coïncidence, mais c'est une façon de s'en amuser, justement. Et je crois que dans l'heureux hasard, on peut aussi voir une philosophie, une façon de regarder le monde, avec ce sourire entendu qui signifie qu'on n'est pas dupe non plus. Essayez, vous verrez, ça peut vous faire votre journée. Par un heureux hasard, je me suis retrouvé à chercher ce matin une théorie sur le hasard. Par un heureux hasard, j'ai rencontré deux personnes qui n'avaient a priori pas grand-chose à voir, mais qui ont fait dialoguer leur art. Par un heureux hasard, j'écoutais la radio et banco, je suis tombé sur un drôle de duo.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Que doivent mes invités d'aujourd'hui au hasard? Ma première est depuis longtemps l'icône de toute une génération de cinéastes et d'artistes. Mon second, en enchantant les murs de nos villes, est devenu l'une des figures les plus reconnues de l'art contemporain. Ils ont plus de 50 ans d'écart. Elle a les cheveux blancs et violets. Ils portent un chapeau et des lunettes noires. Ils se sont rencontrés. Ils ont fait un film qui s'appelle Visage Village, lauréat de l'œil d'or du meilleur documentaire au Festival de Cannes. Visage Village, road movie collectif, créatif, poétique, à travers la France. L'histoire d'une rencontre aussi entre deux sensibilités, deux générations, deux artistes. Bonjour Agnès Varda.
Bonjour Augustin.
Bonjour J.R.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Est-ce que vous croyez au hasard, vous?
Ah oui, moi oui. Moi oui, c'est-à-dire que il faut être à l'écoute du hasard. C'est pas quelque chose, c'est pas frontal. Ça vous arrive comme ça, par le biais, par hasard.
Vous dites que c'est le meilleur de vos assistants dans le film, oui. Agnès.
Il faut le provoquer, en fait. Et nous, on aime ça. C'est-à-dire qu'on se met dans des situations qui peuvent provoquer des hasards intéressants. Toutes les personnes qu'on a rencontrées dans tous ces villages en France, on a été dans ces villages sans connaître personne, des fois en ayant juste un ami, une connaissance, un lien, et ensuite on a tapé aux portes. Et c'est vrai que le hasard nous surprend toujours, mais parce qu'il y a toujours une personne incroyable à l'intérieur de chacun de nous, mais c'était à nous d'aller taper, poser les bonnes questions et puis ensuite commencer une conversation.
Il ne faut pas avoir peur de demander. Par exemple, dans un village, on voulait faire un beau portrait et je me dis, ce serait joli une ombrelle. J'ai été voir un homme, j'ai dit, vous n'auriez pas une ombrelle? Alors il va la chercher, il dit, oh, j'ai trouvé l'ombrelle du mariage de ma mère. Mais il parle et tout d'un coup il dit, mais je suis aussi carillonneur. Alors on va avec lui. C'est-à-dire, quand on demande aux gens de nous aider, ils apportent plus que ce qu'on leur demande.
Et pourtant, en tant qu'artiste, on est soumis, je suppose, à des contraintes financières, à des contraintes de production. Il faut faire en sorte que le temps ne soit pas une contrainte, du coup. Donc, du coup, est-ce que ça s'organise, le hasard?
Bah, tous les deux, je crois qu'on n'aime pas faire les choses dans les règles. Et on a commencé, on s'est rencontrés vraiment un lundi. Moi, j'ai été la voir à son atelier. Elle est venue me voir le lendemain, un mardi. Et on s'est mis à travailler vraiment le surlendemain, le mercredi. Et depuis, voilà, on est dans ces deux dernières, enfin, on a passé deux ans ensemble à pu se quitter. Donc, on a appris à se connaître en travaillant et on a commencé notre projet sans rien écrire et on a demandé à des internautes de nous donner des coups de main. Donc, c'est 646 personnes comme ça, un peu partout en France et dans le monde qui nous ont donné un peu de sous pour commencer. Et ensuite, une fois qu'on a tourné un peu, on a commencé à avoir des aides et autres. On a pu le réaliser comme un film, d'ailleurs, par Rosalie Varda, qui la fille d'Agnès, mais surtout une grande productrice et qui a décidé, et une grande costumière, mais qui a décidé là de nous aider jusqu'au bout parce que c'était pas un film simple à produire.
Je voudrais reprendre quand tu dis qu'il y a deux ans qu'on ne s'est pas quitté, c'est pas comme ça.
Dis-moi alors, qu'est-ce
qu'on a gardé un lien tout le temps, mais tu faisais des choses, je faisais des choses. En fait, on ne tournait que une semaine par mois. Mais ça a duré un an et demi.
Non, on mangeait des chouquettes toute la semaine.
Oui, on se parlait beaucoup.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est aussi un film formidable sur le temps, je trouve. D'un côté, vous prenez le temps de sillonner la France un peu au hasard. De l'autre, Agnès, on a le sentiment que vous courez après le temps. Vous êtes pressée en permanence. 3 minutes pour attendre le bus, c'est trop. Beaucoup trop.
Je suis une impatiente. Mais c'est pas pour ça que je suis pressée. Il y a que quand on est vieux, on se dit, il reste pas tellement de temps, autant en profiter. Mais le bus, c'est vrai qu'il y a du problème avec les bus. Avant, ils venaient un peu souvent. Et maintenant, moi, j'attends 12 minutes le 28.
C'est trop.
Donc, c'est trop. Ouais. Donc, je pars à pied.
Qu'est-ce que vous aimez le plus chez Agnès Varda? Qu'est-ce que vous admirez le plus hier?
Même si elle dit « Oh, je suis peut-être un peu vieille, il ne me reste plus beaucoup d'années », en fait, elle vit à 200 à l'heure, elle s'intéresse de tout le monde, elle est curieuse, elle m'appelle à 1h du matin pour repenser à des choses qu'elle a... C'est vraiment travailler avec une artiste passionnée, on en oublie l'âge, la différence d'âge, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on a tourné une petite semaine par mois parce qu'on pouvait pas courir toute la France tout le temps, mais on se voyait toutes les semaines et on se retrouvait autour de petites chouquettes et un petit thé. Oui, je touffe ta bouteille.
Et puis je me disais peut-être que ce que vous admirez aussi par-dessus tout, c'est son œil. Son œil qui a une place prépondérante dans ce film, jusqu'à l'affiche. Son œil, JR, comment est-ce qu'elle regarde les choses pour vous, Agnès Varda?
Bon, vous déjà, un peu flou. Tu vas pas arrêter de parler de moi, là. On a fait un documentaire.
Ça va être votre tour, après.
Pour parler des gens qu'on a rencontrés en France.
Ah oui,
Et documentaire, ça veut dire s'intéresser aux autres.
Oui, mais je me suis aussi un peu intéressé à toi, quand même. C'est un des fils rouges. C'est d'ailleurs notre petit débat, combat tous les deux. C'est que, bien sûr, qu'on a été à la rencontre de gens, parce qu'on a tous les deux ce même amour pour les gens, pour les rencontres. Mais moi, j'étais curieux de savoir ce qu'Agnès voit à travers ses yeux. Elle m'a dit qu'elle perdait un petit peu la vue. Et en tant qu'artiste, ça m'intéressait de voir comment une réalisatrice voyait juste un peu plus flou. Et donc, c'est devenu un fil. Et elle m'embêtait parce que j'ai toujours des lunettes noires. Et donc, voilà, ça a été quand même un petit combat qui prend sa petite place dans le film.
Non, mais c'était un petit peu un paradoxe que moi, qui avais un peu les yeux abîmés, je les montre. Et toi qui vois magnifiquement, tu les caches. Donc voilà, maintenant, ce petit jeu, une fois qu'on a dit ce petit jeu, on a des appareils qui font le point, oui. On a des techniciens qui nous aident, et toi tu sais très bien, avec ton équipe, d'une photographie, faire des grandes bandelettes qui se collent comme un puzzle, et moi j'ai adoré que le facteur que j'aimais bien, tout d'un coup, il est grand comme 3 étages. Ça c'est que les mettre en valeur, non seulement parce qu'on les écoute et qu'on les aime, mais parce que tu en fais des effigies, des grandes affiches, plus grande que toutes les pubs, et justement, c'est pas des pubs. Donc ça nous plaît.
Agnès Varda est JR invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour la sortie mercredi de leur film Visage Village. C'est la première fois, dites-moi si je me trompe, que vous travaillez en binôme, tous les deux. Comment est-ce que vous avez composé?
Un binôme, je connaissais pas, moi je dis duo.
En duo, mais comment est-ce que vous avez composé avec l'autoritarisme de l'autre? Parce qu'on vous voit là, vous êtes assez autoritaire.
Mais, alors, cette question doit être pour moi, on parle d'autoritarisme. Je pense que
c'est toi qui es autoritaire.
Ben non, voilà. C'est toi, tu
rigoles. Ah bon, je croyais qu'il n'y avait pas d'autoritarisme.
Attends, les gens ont peur de toi, tu te rends pas compte. Moi j'ai eu peur, mais attends, pendant des mois, j'ai rien dit.
Mais pourquoi les gens m'arrêtent dans la rue s'ils avaient peur de moi?
Ils
m'arrêtent dans
toi.
La rue, ils m'embrassent, alors c'est quoi ça?
Pour éviter que vous les attaquiez.
Ils osent pas t'embrasser parce que tu fais peur avec tes lunettes.
Elle m'a attaqué pendant des mois, je n'osais pas la contredire, et puis un jour j'ai élevé la voix.
Moi je trouve que tu ne dois pas dire ça parce que c'est rigolo de le dire, mais c'est tout faux.
Donc vous avez dû composer avec l'autre,
travailler. On n'a pas composé, on a essayé de réfléchir. Et en réfléchissant, on tombait d'accord, c'est ça. Quand on se disait oui, non, peut-être, ben on trouvait quelque chose. Et tout ce qui a été fait, c'était absolument d'accord.
Ah bah, il y a ce passage quand même où Agnès insiste pour coller une image sur un mur en parpaing. Vous n'êtes pas d'accord, vous, Gilles?
Non, c'est vrai qu'on a discuté de tout. Et c'est ce qui est amusant quand on décide de co-réaliser. C'est qu'on doit décider de tout, tout le temps, ensemble. Donc chaque décision, c'est vrai que des fois, j'avais des idées de réalisation qui étaient nulles et elle me le disait. Et des fois, elle avait des idées de mur qui étaient vraiment nulles et elle me le disait. Et en même temps, hier, quelqu'un m'a attrapé en me disant « Mais quand même, tu te moques d'elle quand elle te propose ce mur en parpaing. Mais il était beau, ce mur en parpaing. » Et donc des fois je me pose des questions comme je me dis elle avait peut-être raison et j'espère qu'elle se dit la même chose.
Et pour autant vous n'avez jamais travaillé en duo comme vous le disiez, mais vos œuvres à tous les deux sont souvent des œuvres collectives, des œuvres participatives.
Vous savez, elles se répondent quand même. J'avais quand même fait, il y a fort longtemps, je ne sais pas si c'était né, en 1980, j'avais fait un documentaire sur les muralistes de Los Angeles. Et on n'en parlait pas à l'époque, c'était pas à la mode. Mais ça m'a fasciné les types qui voulaient faire des grandes images sur les murs, offertes gratuitement aux gens qui passent. Donc, j'étais forcément intéressée par ce qu'ils faisaient, parce que c'est ce que tu fais.
Et quel sens ça a d'inclure comme ça les gens, les autres, les spectateurs dans le processus de création? Parce que c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui se joue dans ce film.
Bah, je crois qu'on voit tous les deux l'art comme un formidable facteur de lien. Physique et on est tellement dans une société où on crée du lien numérique que pour moi toute excuse qui permet de voilà, coller une grande affiche en plein de petites bandes de papier, mais qui demande de le faire en groupe, en équipe, avec les gens. En fait, à la fin, les gens se disent pas, oh, mais mon Dieu, quelle image magnifique. Ils se disent, quel moment incroyable, parce que j'ai parlé à mon voisin, j'ai demandé l'échelle à une autre personne, j'étais chercher de l'eau chez un tel. Et on recrée du lien. Nous, on n'est qu'une excuse de, on est des passeurs et à travers le projet, on cherchait à monter des choses un peu, finalement très simples, mais un peu compliquées, comme construire une chèvre de la taille d'une usine.
Mais c'est quand même vrai. Et j'ai demandé à des spectateurs et à des gens, est-ce que vous saviez que les chèvres n'ont plus de cornes? Le saviez-vous?
Ah bah, je le sais parce que j'ai vu votre film, moi, du coup.
Oui. Le grand combat d'Agnès. Non, qui est maintenant le mien.
Mais c'est pas un grand. C'est-à-dire que on est dans une. On parle à des gens. C'est pas qu'on a parlé à des chèvres, mais on a parlé à des gens qui ont des chèvres, qui les élèvent, qui vendent du fromage et qui pensent que en coupant les cornes, elles vont pas se battre et qu'on va faire peut-être 5 litres de plus et 4 fromages de plus. Et cette idée de la surproduction, elle est justement dans ce qui menace la vie agréable, le lien, la beauté des animaux. Alors cette chèvre qu'on a mis au milieu, elle est belle, elle a des grandes cornes. Moi, j'ai du plaisir à la voir.
C'est vrai. Et au début, je voyais pas, j'arrêtais pas de charrier Agnès, comme j'aime bien le faire, sur le fait de, elle arrivait à me faire quand même coller une chèvre. Mais c'est vrai que maintenant, plus je revois le film, puis je me dis, elle avait extrêmement raison. Pourquoi? Parce que c'est des plus petits exemples comme ça, où finalement personne s'indigne, que ça révèle des choses beaucoup plus graves dans notre société.
Ce qui est intéressant et émouvant, c'est aussi que vous intervenez dans des lieux qui ne sont pas du tout neutres. Un ancien quartier ouvrier déserté dans le Nord, un chantier de docker, une usine, tout de marqué par des luttes sociales. Les gens ont le sentiment d'être écoutés, de partager quelque chose, de faire partie d'un ensemble, d'un tout. Est-ce que c'est ce qui fait de votre art, de ce film, un film politique aussi?
Nous, on engage les gens, mais dans le sens où on vient pas juste faire des interviews, les écouter, on vient réaliser quelque chose avec eux. Donc ils ont la parole aussi dans ce que l'on va réaliser, puisque c'est leur mur, c'est leur village, et que nous on est juste des invités. Et
on leur a jamais demandé quelles opinions politiques ils avaient. Ça faisait partie du principe.
Du protocole.
On était des personnes qui rencontraient des personnes. Et jamais la conversation politique n'a été posée. Ce qui fait que ce qui est politique, c'est que tout est politique. Mais ce qui était bien, c'est que ce n'est pas devenu une occasion de vendre ou de pousser ou d'influencer. C'était, est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce que vous voulez bien nous aider? Est-ce que ça vous fait plaisir?
Vous n'avez jamais pensé vous présenter à la présidence de la République, Agnès?
Oui.
Je suis sûr que j'y voterai pour vous. Il dit oui. Non? Jamais. Pas de carrière politique pour vous.
Alors moi, je trouve que on doit faire déjà la paix avec les voisins, les gens qu'on connaît.
C'est un programme politique,
ça, déjà. Il y a
déjà
un boulot, hein. Il y a déjà du boulot.
Votre plus grande mesure, votre première mesure, tiens, ce serait quoi?
Mais je ne sais pas de quoi tu parles. J'essaie vraiment...
Que les films sont en couleur. Ça c'est déjà le cas.
Non, mais j'avais peur que
non,
vous me disiez.
Non, mais il a tendance à penser que j'ai travaillé avec Alice Guy Blaché en 1902 chez Gaumont.
C'est vrai. Mais ça, tu me l'as caché. Et c'était comment la projection du premier film avec les Frères Lumière?
Lisa, tu veux au moins ces films de minuit? Ils sont beaux comme
très
tout.
Très bonne réponse.
Je vais faire son éducation un petit peu.
Ouais, tant que vous ne nous imposez pas le cheveu bicolore, Agnès. Peut-être des mesures d'incitation à la curiosité. Ça aurait été bien, je crois.
Ça, oui.
En nous imposant le voyage et le parti pris de la poésie. En nous disant, prenez la route, mes enfants, et que ça saute. Et on embarquerait, vous savez, avec vous et avec Dylan, on the road again. Ce serait avec Agnès Varda et JR. On écouterait Boomerang.
Full of claws. I said, who's in the fireplace? And you tell me Santa Claus. The milkman comes in, he's wearing a derby hat. And you ask why I don't live here. Hey, how come you have to ask me that? Well, I ask for something to eat. I'm hungry as a hog. So I get brown rice, seaweed, and a dirty hide. And you ask why I don't live here. Hey, I gotta think you're really weird.
sword. Your grandma praised the pictures that I pasted on a board. Everything inside my pockets, your uncle steals. And you ask why I don't live here. Hey, I can't believe that you're for real. Well, there's fist fights in the kitchen, they're enough to make me cry. The mailman comes in, even he's gotta take a side. Even the butler, he's got something to prove. When you ask why I don't live here, honey, how come you don't move?
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Non mais c'est vrai qu'ils sont bien assortis quand même, en tout cas dans la radicalité de leur allure. Hein. Elle avec son éternel coupe au bol bicolore, qui lui a valu, comme elle nous l'a confié, naguère, le surnom de gland et non de champignon. Lui avec son chapeau et ses lunettes noires, duo improbable de cinéma, quelque part entre Emma Peel et John Steed, dans Chapeau Melon et Bottes de Cuir, quelque part entre Laurel et Hardy, quelque part entre Harold et Maude. Ils sont frais à souhait, les artistes Agnès Varda et J.R. invités de Boomerang ce matin pour leur film Visage Village, un film que vous avez conçu comme une aventure spontanée, on le disait, où vous êtes laissé guiser au gré de hasard, de rencontres. Est-ce qu'il y a une de ces personnes, je me suis demandé, que vous avez rencontrée, à laquelle vous pensez encore, tout le temps?
Toutes.
Voilà, plusieurs. Ça, plusieurs.
Ouais, plusieurs. On n'a pas réussi à se focaliser que sur une comme ça qui émerge du film. Enfin, pour moi, c'est Agnès, mais ça, c'est ma rencontre personnelle.
Il n'y a pas de hiérarchie dans la tendresse. Ouais. Parce qu'ils nous ont apporté des choses différentes. Certains d'entre eux, suivant les moments et les jours, on pense à eux. Mais on pense à eux, c'est vrai. Parce que ce qu'on avait envie, c'est que d'être les passeurs pour que maintenant vous les connaissiez. Et je suis sûre que vous pensez à Jeannine, et qui parle du pain d'alouette de son père, des choses, des petites choses qu'on a apprises en écoutant, le type qui part à la retraite et qui dit des choses qui déchirent tellement ça fait de la peine. Donc on voit très bien que on apprend à lire autrement. Par exemple, on nous casse les pieds avec la retraite. Hein. Tout le monde en parle. Alors, à quel âge la retraite? Après combien de trimestres? Combien on touchera? Est-ce qu'il y aura des primes de machin? Et alors, on entend ça depuis 10 ans. Moi, je n'avais jamais entendu, ça prouve qu'on n'est pas assez curieux, une seule personne qui disait « c'est mon dernier jour de travail ». Et je suis perdue. Je suis au bord d'une falaise. Je crois que je vais tomber. C'est-à-dire que ce travail qu'on pousse, qu'on trie, bravo, on s'arrête, quelle chance. Ben, c'est plus complexe que ça, la vie. Le rapport au travail. Les mineurs aussi. Dieu sait qu'ils avaient une vie atroce, difficile. Et ils en parlent avec l'idée de cette communauté. Donc, je trouve qu'en faisant des documentaires, on apprend à pas avoir des points de vue carrés. On apprend à glisser dans tous les interstices de l'esprit, de l'âme, du cœur. Je trouve qu'on apprend, qu'on se fait du bien nous-mêmes.
Et c'est aussi le film un formidable témoignage sur cette œuvre en fait qu'est la vôtre Agnès et la vôtre aussi J.R. On parlait de la chèvre tout à l'heure et c'est vrai que quand on pense à cette chèvre on pense tout de suite à une autre chèvre que vous avez photographiée Agnès dans les années 50. Vous voyez de quoi je veux parler?
Ben oui.
J'ai toujours aimé les chèvres blanches et là aussi par hasard j'arrive à Saint-Aubin-sur-Mer et une chèvre était tombée de la falaise. Elle était toute plate, toute morte par terre. Et elle m'a servi de quelque chose de fixe, d'une composition que j'ai faite. Et à une époque où je rencontrais, parce qu'il était jeune et on était amis, Guy Bourdin, qui n'était pas encore le photographe célèbre. Alors, dans ce même endroit, J.R. me dit, viens, je vais te montrer quelque chose en rocher. On savait pas qu'on connaissait l'endroit tous les deux. Ah, ça nous a plu. Ça s'est bien terminé. Il a fait un collage extraordinaire, sur un rocher extraordinaire. Et la marée extraordinaire, la lessivée dans la nuit. Donc, on a envie de faire des choses ensemble. On sait que tout ça est éphémère. Ça fonctionne, on se comprend.
C'était aussi une façon, J.R., de remonter le temps.
C'est une manière plutôt de vivre le moment présent, mais tout en partant... Enfin, on regarde toujours une image en fonction de sa propre histoire. Ce qui était beau sur cette plage et sur ce bunker, c'est que pour moi, c'est un bunker comme ça, qui est tombé d'une falaise, planté là au milieu de la plage. Pour Agnès, c'est une plage sur laquelle elle a des souvenirs, sur une plage sur laquelle, et là c'est pas pour faire des blagues, elle était allée en 1938, donc avant même que ce bunker ait été construit, puis ensuite elle est retournée en 1950 et quelques avec Guy Bourdin.
54, comment se faire un peu, sois précis.
Merci. Et ensuite, moi quand je le découvre des années plus tard, même des dizaines d'années plus tard, quelque part, voilà, moi je le vis avec ma propre histoire et ça m'intéresse d'essayer de comprendre la sienne, même si c'est beaucoup passé de choses dans sa vie, parce qu'elle
oui,
en a
mais
vu.
L'histoire se catapulte tout le temps, ça fait des bons. Car avant tout ça, il y avait eu le débarquement et ce bunker que les Allemands ouais. avaient mis. Alors moi, je croyais que c'était les Américains,
mais sur cette place, Canadiens. C'était les Canadiens.
Ouais. Il y a quand même des Canadiens qui sont venus mourir en bas de cette plage pour libérer la France. Hop, encore une vague d'histoire. Après, le bunker tombe. Après, c'est ça. C'est intéressant parce que on croise l'histoire. En biais, je ne sais pas comment on peut dire. On traverse tout ça, et puis il y a le petit moment où on fait un travail avec une équipe. Ils sont sur des échelles, c'est dangereux. Moi, j'attends, j'ai peur de tomber parce que ça glisse. Et puis tout d'un coup, c'est très beau, on fait une image et on est content. On n'est pas content de nous, on est content de ce que ça veut dire de faire s'intercaler des choses du temps, de nos propres histoires qui font une petite œuvre. Je dis une petite heure parce qu'elle a déjà disparu, mais le film l'a conservée. Donc, c'est ambigu, quoi, c'est complexe.
Il y a des choses que vous avez peur d'oublier.
Ah ben, j'oublie déjà la moitié des trucs. J'ai peur d'oublier les choses auxquelles je tiens. Mais on est tous menacés de perte de mémoire, pour ne pas dire d'Alzheimer.
Et vous, J.R., qu'est-ce que vous n'aimeriez ne jamais oublier?
Disons que peut-être c'est pour ça que je fais autant d'images, que j'emmagasine, que je partage constamment ces images, que j'essaye de faire des livres et autres et des films. C'est pour... parce que le travail que je fais dans la rue est extrêmement éphémère, puisque, comme le disait Agnès, des fois il tient même pas une nuit. Et en même temps, ces choses-là, on les fait pour le moment qu'on vit, pour le partage avec les gens, pour les rencontres que ça va créer. Mais on aime bien en garder une petite image pour pouvoir la partager ou en reparler.
Une trace.
Tu m'as épaté parce que c'est pas parce qu'il a eu un Nobel de la poésie, mais c'est si rare qu'on parle de poésie, c'est si rare qu'on pense que la poésie est nécessaire. Et nous, on t'a amené un petit poème.
Oh, vous m'avez amené un poème. C'est bien parce que je vous ai demandé de conclure cette émission comme vous le souhaitiez. Et donc, il y a ce poème.
Un petit poème en prose au Baudelaire.
Pas mal.
Et qui est à deux voix, donc on va en plus le faire. Comme il faut.
Agnès Barda, mets ses lunettes.
Qui met ses petites lunettes, triple, quadruple loupe.
Oh, bon esprit.
Mais toi, qu'est-ce que tu vois à travers tes carreaux noirs, là? Vous voulez que je vous le dise un peu?
Allez.
Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère?
Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
Tes amis?
Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie.
J'ignore sous quelle latitude elle est située.
La beauté.
Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
L'or.
Je le hais comme vous haïssez Dieu.
Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger?
J'aime les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
Merci infiniment, Agnès Varda et J.R., et pour tous ces merveilleux nuages.
Merci à Baudelaire, c'est beau, hein ?